Bonjour à tous. Mamie fait de la radio. Voici votre première émission de lecture choisie. À partir d'un thème, vous pourrez écouter des extraits de textes dont je vous donnerai les références. Le thème du jour, les moutons. Animaux mésestimés. Ne dit-on pas que les hommes sont des moutons quand ils suivent bêtement ce que les autres font ou qu'ils obéissent sans réfléchir? Jean Giono a écrit en préface d'un livre de Anne-Marie Brisbard, Le Berger, chez Berger Levrault dans la série Les métiers d'hier et d'aujourd'hui, un petit texte sur la difficulté du métier dû en partie au comportement pas si bête que ça des moutons. Ah, si j'étais berger, comme j'écrirais facilement le roman que je veux écrire, comme je peindrais magnifiquement, comme je serais enfin le grand bonhomme que je suis. Mais berger, c'est un métier. C'est même un sacré métier. Et écrire un livre est un métier aussi, et peindre en est un autre. J'ai été berger. Enfin non, je m'explique. Dans les années 40 à 43, j'avais 16 personnes à ma table, chaque jour pour les deux repas, sans compter les déjeuners et les goûters. Il y avait outre ma famille, ma femme, mes deux filles, ma mère, les fils des amis qui se cachaient chez moi, des réfugiés de toutes sortes. Il fallait nourrir tout ce monde. J'avais acheté des moutons et je les faisais garder par un berger dans deux vieilles bergeries que je possédais dans la montagne. Les hommes, à tour de rôle, moi compris, nous allions à vélo nous ravitailler là-haut en viande et en laitage chaque semaine. Une fois, question de patrouille allemande qui fourgonnait dans les environs, je fus obligée de rester 4 ou 5 jours avec juste un nègre, le berger. Il avait une trentaine de brebis à moi et une cinquantaine à lui, ce qui est tout à fait modeste. Justin gouvernait son troupeau de main de maître. Son chien était une merveille d'animal qui comprenait son maître à demi-mot. Tout se faisait comme par l'opération du Saint-Esprit. Un petit claquement de langue ou de doigt, et le labri ramenait la brebis égarée. Justin présent, les brebis ne se hasardaient pas loin du troupeau. Il avait vraiment l'air de ne rien faire. Tout se faisait comme sans lui, parce que tout s'était fait à l'avance avec lui. Justin connaissait toutes ses brebis, l'une après l'autre, et toutes les brebis le connaissaient. C'était une question de métier. Un après-midi, vers les 4 heures, nous étions en octobre, la nuit venait, Justin me laissa la garde du troupeau le temps d'aller se raser au premier étage de la bergerie. Je pris l'attitude du berger classique. Nonchalamment, appuyé sur mon bâton, je regardais en rêvant le troupeau assemblé à mes pieds. Il broutait tranquillement, le nez dans l'herbe, sans se soucier de moi. Du moins, je l'imaginais. J'avais l'impression que pour un mouton, Justin ou moi, c'était la même chose, le même bipède, la même silhouette. Ils me prouvèrent le contraire en 2 minutes. Je continuais à représenter le berger classique. Ils jouèrent le rôle de mouton naturel. Une brebis s'écarta de 10 mètres vers la gauche. Je fis claquer mes doigts vers le chien. Il ne bougea pas. 2 brebis s'écartèrent de 20 mètres vers la droite. Je commandai au chien à haute voix d'aller les ramener. Il s'assit, leva la patte de derrière et se gratta le derrière des oreilles. Je l'injuriai et je courus vers la première brebis qui s'était écartée et trottai à plus de 50 mètres du troupeau, suivi de 4 ou 5 de ses amis qu'elle avait débauchés, je ne sais comment, sans bêler, rien que par son attitude sans doute. Le temps de courir après elle, sans la rattraper car elle se mit à courir elle aussi et elle avait de l'avance, l'aile droite commença à s'égayer dans tous les sens pendant que le centre prenait l'initiative de foncer à toute vitesse droit devant lui. Je hurlais, mes cris ajoutaient à la confusion et semblaient donner une raison à l'anarchie. Le chien s'était remis sur ses quatre pattes, me regardait avec beaucoup d'intérêt, s'efforçant sans doute de comprendre ce que j'étais en train de faire et me souriait gentiment avec de bons yeux candides en remuant la queue. Ah, j'eus beau courir, essayer d'être partout à la fois, le chien trottant sur mes talons, le troupeau ruisselait de tous côtés, m'échapper sans rémission malgré tous mes efforts, et bientôt il disparut littéralement dans la nuit qui tombait. Ah, j'étais déconcertée, à bout de force et fâcheusement impressionnée par la certitude d'avoir été aux prises avec l'esprit malin, doux comme un mouton. Il n'aurait pas fallu venir à ce moment-là m'échauffer les oreilles avec cette locution. Je revins navrée vers la bergerie. Je récapitulai en moi-même que je venais de perdre en 2 minutes tout le ravitaillement de mon monde et toutes les brebis de Justin. J'en avais des sueurs froides. Justin attendait au seuil de la bergerie. « Et les moutons ?» me demanda-t-il. « Ah ben, nous sommes jolis !» me dit Justin. Il se mit à me décrire, avec quel luxe de détails horribles, dans quels abîmes de famine et de misère j'avais plongé ma famille et la sienne par la perte de ce troupeau. Il n'eut pitié de moi qu'au bout d'un quart d'heure, dont je me souviendrai toute ma vie, on le voit. Enfin, il alluma la lampe tempête et il me dit « Allez, viens ». Il me conduisit en fait directement à 2 kilomètres de là, sur un mamelon crépelé de chênes blancs de petite taille que le vent des hauteurs avait feutré. C'est sous cet abri que le troupeau s'était réfugié. Justin ne prit pas la peine de compter les moutons. Il savait qu'ils étaient tous là. Il fit claquer ses doigts. Le chien devint à cet instant merveilleusement intelligent et les moutons, ce qu'un vain peuple désigne par ce mot. Il ne restait plus qu'à rentrer au bercail le plus simplement du monde. Ah, il s'agit bien d'un métier, et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'improviser du jour au lendemain serrurier, cordonnier, tailleur, maçon, etc. Mais on trouve tout naturel de s'improviser berger, comme on trouve naturel de s'improviser romancier ou poète ou peintre. On se dit « berger ». C'est facile, mener les moutons, c'est par définition à la portée de tout le monde. Au lieu de continuer à venir à ma banque, à ma compagnie d'assurance, à mon bureau de fonctionnaire tous les matins à 9h pour y rester assis jusqu'à 18h, je vais aller garder les moutons dans les collines de Provence parmi le thym et la sarriette. Ah, les moutons ne mangent pas de ce thym-là, rien n'est facile.
J'ai tout laissé dans mon bel appartement, un genre de loft du 11e arrondissement, pour m'en retourner à la terre, pour m'en retourner à la terre. J'ai quelques chèvres, des canards et des agneaux. Je fais du fromage, du foie gras et du vin bio. C'est une horrible piquette, mais je la vends sur Internet. Du jardin, je fais du tai chi dans le champ de mon voisin. C'est un baba de 68 qui fait l'élevage des truies. L'été, je loue les tables comme gîte rural. certaines qualités de vie. Bien sûr, j'ai peur de la mondialisation. On démonte les pizzerias. Au village, on n'a que ça. Je joue en bourse, j'ai pas honte avec l'argent. Il faut avec son temps. C'est dépasser l'Occident. Je parle anglais couramment. I've left all my stuff in my fucking lovely flat.
Vous êtes à l'écoute des moutons, thème de notre première émission de lecture choisie. Qui a tué Glenn ? Léonie Swann relate dans ce livre une enquête menée par Miss Maple, une brebis. Les personnages principaux de ce thriller sont bien sûr des moutons, brebis, béliers, qui portent tous un nom. L'histoire débute par la découverte du corps du berger. Pourtant, hier encore, il était en parfaite santé, remarqua Maud en remuant nerveusement les oreilles. Ah, « Cela ne veut rien dire, » répliqua Sir Richfield, le doyen du troupeau. « Il n'est pas mort de maladie. Les bêches ne sont pas des virus. » Le berger était allongé près de la grange, non loin du chemin, dans l'herbe verdoyante d'une prairie irlandaise, et il ne bougeait pas. Posé sur son pull-over en laine d'Écosse, une corneille solitaire examinait ses entrailles d'un œil expert. Un petit lapin, tout content, se tenait à côté. Les moutons s'étaient réunis un peu plus loin, près de la falaise. Ce matin-là, en découvrant leur berger si étonnamment froid et inerte, ils avaient gardé leur calme, ce dont ils étaient très fiers. Bien sûr, sous le coup de l'émotion, il y avait eu quelques cris irréfléchis du genre « Qui va nous apporter le foin maintenant ?» ou « Un loup, c'est un loup !» Mais Miss Maple avait aussitôt calmé les esprits. Elle avait expliqué que, de toute façon, seuls les imbéciles mangeaient de la paille en plein été dans le pâturage le plus vert et le plus gras d'Irlande, et que même les loups les plus raffinés ne tuaient pas leurs victimes en leur plantant une bêche dans le corps. Or, c'était à n'en pas douter, un outil de ce genre qui saillait des entrailles du berger encore baigné de rosée. Miss Maple était la brebis la plus intelligente de tout Glenkill, certains affirmaient même du monde entier. Cependant, personne ne pouvait le démontrer. Certes, on organisait tous les ans le Smartest Sheep of Glenkill Contest, le concours du mouton le plus malin de Glenkill, mais Miss Maple refusait, précisément en raison de son extraordinaire intelligence, de participer à ce genre de compétition. En effet, après avoir reçu une couronne de trèfle, qu'il avait le droit de manger tout à la fin, le vainqueur faisait en effet plusieurs jours durant la tournée des pubs environnants. Chaque fois, il devait répéter le numéro qui lui avait, bien à tort, valu son titre, les yeux larmoyants à cause de la fumée de cigarette, tandis que les clients l'abreuvaient de Guinness jusqu'à temps qu'il s'effondre. En outre, son berger le tenait dès lors pour responsable de toutes les bêtises commises dans la prairie, car c'est toujours le plus malin qu'on soupçonne en premier. George Glenn, lui, ne tiendrait plus jamais un mouton pour responsable de quoi que ce soit. Il gisait, non loin du chemin, empalé, et ses bêtes se demandaient ce qu'elles devaient faire. Elles se tenaient au bord de la falaise, entre le ciel bleu comme la mer et la mer bleue comme le ciel. Parce que là, au moins, on n'était pas gêné par l'odeur de sang, et elles éprouvaient un sentiment de responsabilité. « Ce n'était pas un très bon berger, » remarqua la petite Heidi, qui n'avait toujours pas pardonné à George de lui avoir coupé son imposante queue d'agneau à la fin de l'hiver. « C'est vrai, » confirma Claude, la brebis la plus laineuse et la plus belle qu'on puisse imaginer. Il n'estimait pas notre travail à sa juste valeur. « Les moutons écossais font cela mieux que vous, les moutons écossais donnent plus de laine, etc. » Il commandait même ses pull-overs à l'étranger. Une honte! Aucun autre berger n'aurait humilié son troupeau à ce point. Heidi, Claude et Mopple la baleine entamèrent une longue discussion. Ce dernier soulignant qu'au bout du compte, la valeur d'un berger se mesurait à la quantité et à la qualité de la nourriture qu'il donnait, et qu'à cet égard, il n'y avait rien, mais alors vraiment rien, à redire au sujet de George Glenn. Pour finir, on conclut que le berger idéal ne couperait jamais la queue des agneaux, n'emploierait pas de chiens, donnerait à manger en abondance, avant tout du pain et du sucre, mais aussi des choses saines comme de l'herbe, des aliments concentrés et des betteraves. Qu'est-ce qu'il était raisonnable ! Et porterait les produits de son troupeau. Par exemple, une longue robe en laine tissée, ce qui serait très beau et le ferait ressembler à un mouton. Bien sûr, les bêtes de George se rendaient compte qu'un être aussi parfait, ça n'existait pas. Mais l'idée était belle. On poussa quelques soupirs, puis on commença à se séparer, très satisfait d'avoir résolu les questions en suspens. Alors, Miss Maple, qui n'avait pas pris part à la discussion, demanda « Vous ne voulez donc pas savoir de quoi il est mort ?» Sir Richfield la regarda tout étonné. « Il est mort d'une bêche ?» Toi non plus, tu n'y aurais pas survécu si on t'avait transpercé le corps avec un gros machin en fer. Ce n'est pas étonnant qu'il soit mort. » En disant cela, il fut pris d'un léger frisson. Et d'où venait-elle, cette bêche? Quelqu'un lui a planté dans le ventre. Pour Sir Richfield, l'affaire était réglée. Mais Othello, le seul mouton noir du troupeau, s'intéressa tout à coup au problème. Ce ne peut être qu'un être humain. Ou alors un très grand singe. Othello avait passé sa jeunesse aux zoos de Dublin et ne ratait pas une occasion de faire allusion à cette époque mouvementée de sa vie. « Un être humain !» approuva Miss Maple en hochant la tête d'un air satisfait. Le nombre de suspects se réduisait à vue d'œil. « Je pense que nous devrions chercher de qui il s'agit. Nous lui devons bien cela, ce bon vieux Georges. Quand un chien sauvage enlevait un agneau, il essayait toujours de trouver le coupable. En plus, il nous appartenait. C'était notre berger. Personne n'avait le droit de lui planter une bêche dans le ventre. C'est bestial, c'est un crime. » À ces mots, les moutons prirent peur. De plus, le vent avait tourné et poussé l'odeur de sang frais vers la mer, entraînée fine mais nettement perceptible. « Et quand on aura trouvé le planteur de bêche ?» demanda Heidi avec nervosité. « Qu'est-ce qu'on fera ?»« Justice !» bêla Othello. « Justice !» bêlèrent les autres en chœur. Adjugés, les moutons de George Glenn allaient élucider le crime de leur seul et unique berger. mouton. Une primatologue, Thelma Rowell, a dénoncé le scandale hiérarchique qui a donné des moutons une représentation peu flatteuse. Nous pouvons lire dans le texte de Vinciane Desprez, Non-Shipping Ship, extrait du livre Écologie politique aux éditions Amsterdam. On pourrait dire des moutons qu'ils ont été, plus que d'autres encore, victimes de questions peu pertinentes par rapport à leur possibilité de s'organiser socialement. D'abord, la focalisation sur la question de ce qu'ils mangent est d'autant plus exclusive et intense qu'elle répond à ce que nous attendons des moutons, qu'ils convertissent des matières végétales en gigots. Ensuite, le désintérêt par rapport à la question de la prédation rend impossible la traduction de comportements qui prennent tout leur sens par rapport à elle, ce qui, dans nos métaphores politiques, apparaît comme emblématique de leur bêtise. Le comportement moutonnier aurait pu justement devenir, avec cette question, ce qui fonde l'intelligence même du comportement social de la plupart des moutons. Une stratégie de coordination et de cohésion qui protège des prédateurs. Plus les animaux sont proches et attentifs aux mouvements des autres, plus vite l'ennemi sera détecté. Enfin, l'organisation même de l'élevage laisse peu de chances à l'émergence de comportements sociaux tels qu'on en rencontre chez les primates. D'une part, on ne connaît que peu de choses des mâles, rares sont ceux qui vivent au-delà de 3 mois. On ne connaît rien non plus de la manière dont les femelles les choisissent lors de la période d'accouplement et comment les relations organisent ce choix puisque la sélection est entièrement dévolue aux humains. D'autre part, la sélection des éleveurs va elle-même jouer en faveur du mouton le plus moutonnier. De temps en temps, il y a un mouton un peu inventif. La plupart des fermes ne le sélectionneront pas parce que c'est ce mouton-là qui va trouver le trou dans le grillage. Un peu plus loin, on peut lire « Préférons-nous vivre avec des moutons au répertoire sans surprise ou avec des moutons qui nous étonnent ?» Avec des moutons inventifs qui nous enseignent d'autres manières de s'organiser et qui ajoutent d'autres définitions à ce qu'être social veut dire. Tout le travail de Thelma Rowell en témoigne. Il ne s'agit pas de dénoncer le scandale hiérarchique pour le simple plaisir de débusquer des biais méthodologiques. Il s'agit d'élargir le collectif à ceux qui sont susceptibles d'intéresser. Elle le dit elle-même. Je pense que la coopération est bien plus intéressante. Et c'est elle qui rend les animaux vivants en société à la fois différents et intéressants. Ce qu'ils sont sans le moindre doute. Pour finir, connaissez-vous Michel ? C'est un mouton, bien sûr. Héros d'un petit livre pour enfants, le mouton distrait, jamais là où sont les autres moutons, et qui de ce fait échappe au pire sans s'en rendre compte. Vous trouverez Michel, le mouton qui n'avait pas de chance, chez Thierry Magnier de Sylvanie Victor, suivi de Brigitte, la brebis qui n'avait peur de rien. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission « Mamie fait la radio ». Nous allons nous retrouver dans 15 jours pour rendre hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale.